VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge. Au sommaire de cette édition du 19 octobre 2017, près de 30 morts dans des affrontements hier à Bombolo, en Centrafrique. Togo, 4 morts, plusieurs blessés par balle et des dizaines d'arrestations hier à Lomé et Sokodé, des blessés également aujourd'hui. Mohamed Djabaté, ex-commandant rebelle libérien, reconnu coupable de parjure aux États-Unis pour avoir menti à l'immigration. Rencontre entre Raila Odinga et le président de la commission électorale kényane. Madrid fait un pas de plus vers la suspension de l'autonomie de la Catalogne. Et l'économie des sports, ce sera juste après le journal. Près de 30 morts à Pombolo en Centrafrique hier dans des affrontements entre des anti-Balaka et l'UPC. La MINUSCA assure que des dispositions sont en cours pour protéger la population. Plus de précisions avec notre correspondant Freeman Sipila.
Mercredi matin, des anti-Balaka en nombre important ont pris d'assaut la localité de Pombolo, située à plus de 100 km à l'ouest de Bangassou. Après plusieurs heures de rude de combat avec les éléments de l'UPC, un groupe armé majoritairement peuls, le village serait passé sous contrôle des anti-Balaka. Des sources locales parlent de près de 30 morts pour la plupart des civils et d'une cinquantaine de blessés. Confirmant les combats, la MINUSCA, la force de l'ONU, assure avoir dépêché ses soldats sur place pour protéger la population. Vladimir Monteiro, son porte-parole.
Les premières informations font état de violences d'une grande ampleur qui auraient coûté la vie à plusieurs innocents civils. La MINUSCA fera tout pour mettre fin à ces violences et faciliter l'accès aux blessés. Et à cet effet, la MINUSCA a déjà envoyé un hélicoptère et il a envoyé des soldats depuis Bangassou vers Pombolo parce que nous ne disposons pas de présence de casque bleu à Pombolo.
Il est difficile pour le moment de dire avec exactitude ce qui s'y passe. À Bangui, les autorités n'ont pas encore commenté cette nouvelle attaque, intervenue une semaine après celle de Kembe, provoquant la mort d'une vingtaine de civils. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Par ailleurs, un travailleur humanitaire centrafricain est porté disparu depuis mai dans le sud-est de la Centrafrique. Ce membre de l'ONG Espérance a été aperçu pour la dernière fois à Mobaye le 25 mai. Journée de tension au Togo au lendemain de violences meurtrières. Les habitants de Lomé sont restés chez eux alors que les forces de l'ordre sont déployées dans la capitale. Notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Les rues de Lomé étaient désertes ce jeudi 19 octobre. Fuyant la terreur, les populations ont préféré se terrer chez eux. Les quelques rares jeunes qui s'y aventurent sont sérieusement molestés par les corps habillés. Ces derniers menacent même de s'en prendre aux journalistes. Au rond-point du grand contournement avec le boulevard Malfa Kassa d'Akpamé, ce militaire a failli empêcher les journalistes de faire leur travail.
Tu ne fais rien ici, tu quittes, tu démarres, tu ne tues pas, c'est fini, c'est bon.
Vous allez me frapper.
On ne peut pas te frapper, ou bien toi, tu dépasses ton frappe ici. Tu dépasses ton frappe ici.
J'allais casser mon appareil.
C'est pas ça mon problème, je vous ai dit de quitter les lieux.
À Difa, dans la banlieue est de Lomé, plusieurs blessés par balle ont été enregistrés. Le centre de santé du district à court d'intrants se trouve dans l'incapacité de soigner ses blessés. À Bé, des corps habillés ont investi des maisons pour frapper des jeunes. Ces derniers disent ne pas se reconnaître dans ce qui leur sont reprochés. « Je ne manifestais même pas », se plaignait un jeune homme le dos enflé suite au passage des forces de l'ordre. Selon des observateurs des droits de l'homme rencontrés sur le terrain, la violence prend de plus en plus d'ampleur dans la capitale togolaise. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Un tribunal fédéral américain a jugé l'ex-commandant rebelle libérien Mohamed Djabaté, alias Jungle Jabba, coupable de fraude et de parjure pour avoir menti aux autorités de l'immigration. 20 témoins sont venus à Philadelphie pour témoigner des actes horribles commis par Djabaté et ses soldats de l'ULIMO, dont le cannibalisme, viol, meurtre et esclavage. Arrêté l'an dernier dans cette ville de Pennsylvanie, il sera condamné dans les prochains mois. Il risque jusqu'à 30 ans de prison. La tension persiste au Cameroun anglophone malgré le lancement par le gouvernement d'une série de concertations dans ces régions désormais exposées à un risque d'insurrection armée, a mis en garde International Crisis Group. Le président Paul Biya doit prendre ses responsabilités et agir vite dans les zones où les rangs des sécessionnistes augmentent de jour en jour du fait de la répression meurtrière, a prévenu dans un nouveau rapport le Centre d'analyse et de prévention des conflits. La délégation de l'Union européenne au Gabon a réitéré sa demande auprès des autorités pour ouvrir une enquête indépendante sur les violences post-électorales de 2016. Faire la lumière sur ces événements est un passage obligé pour la réconciliation entre tous les Gabonais et garantir la stabilité durable du système démocratique, estime l'Union européenne dans un communiqué. Le leader de l'opposition kényane, Raila Odinga, a estimé qu'il n'était pas tard pour faire les réformes qui pourraient l'amener à reconsidérer son retrait de la présidentielle du 26 octobre. Yacouba Ouédraogo.
C'est à l'issue d'une rencontre avec le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, que Raila Odinga a évoqué la possibilité de reconsidérer son retrait du scrutin si des réformes sont menées. Pour l'heure, l'opposition a promis qu'il n'y aura pas d'élection le 26 octobre parce qu'elle va organiser des manifestations le jour du scrutin. Le leader de l'opposition, qui n'a toutefois pas formalisé son retrait, dit être conforté dans sa décision par les critiques formulées à l'encontre de la commission électorale par M. Chebukati lui-même. Il a ajouté que la démission d'une des commissaires, Roselyne Akombe, est un aveu de l'inefficacité de la commission. Madame Akombe et M. Chebukati ont émis des doutes sur la capacité de l'IBC à garantir une élection crédible en raison des interférences politiques dont elle fait l'objet. Le président de la commission a appelé M. Odinga et le président Uhuru Kenyatta à se rencontrer en sa présence. Pour M. Kenyatta, le dialogue ne peut porter que sur la manière de conduire pacifiquement l'élection.
Le gouvernement espagnol a fait un pas de plus vers une suspension de l'autonomie de la Catalogne en accusant le président séparatiste catalan Carles Puigdemont de chercher l'affrontement systématique, dit Lidico.
Le dirigeant catalan Carles Puigdemont avait jusqu'à ce matin 8 heures temps universel pour dire s'il renonçait à déclarer l'indépendance de la Catalogne. Mais il n'a pas répondu clairement à la question posée par le gouvernement espagnol qui voulait savoir s'il avait, oui ou non, déclaré l'indépendance. Il a plutôt déclaré que si le gouvernement persiste à empêcher le dialogue et poursuivre la répression, le Parlement de Catalogne pourra procéder au vote d'une déclaration formelle d'indépendance. Ce refus a incité le gouvernement espagnol à annoncer qu'il allait prendre toutes les mesures pour restaurer au plus vite la légalité et l'ordre constitutionnel en Catalogne. Ces mesures de suspension de l'autonomie seront examinées samedi lors d'un conseil des ministres extraordinaire qui devra les transmettre au Sénat en vue de leur validation fin octobre.
Le chef d'une faction des talibans pakistanais a été tué par une frappe de drone américain selon un de leurs porte-parole, Umar Khalid Khorasani, qui avait subi de graves blessures lors d'une récente frappe d'un drone américain dans la province de Paktia en Afghanistan, est mort mercredi soir, a déclaré à l'AFP Assad Mansour. Au moins 9 proches collaborateurs de Khorasani ont également été tués par cette frappe, a-t-il ajouté. L'Agence internationale de l'énergie atomique poursuit sans problème ses inspections en Iran et Téhéran se montre très prudent depuis la décision du président américain Donald Trump de ne pas certifier l'accord sur le nucléaire iranien, indiqué le chef de l'organisation Youkiya Amanou. La décision de Donald Trump a été prise très récemment, a souligné M. Amanou, à l'issue d'un entretien à Paris avec le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Le président français Emmanuel Macron recevra mardi son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors d'une visite officielle annoncée à la présidence française. Cette première rencontre entre les deux chefs d'État permettra d'évoquer les sujets d'intérêt commun comme les crises régionales et la lutte contre le terrorisme, mais également la situation des droits de l'homme à laquelle la France est particulièrement attentive, indique l'Élysée. Un tribunal de Bagdad a émis un mandat d'arrêt contre Khosrat Rasoul, le vice-président du Kurdistan irakien. Selon le porte-parole du Conseil suprême de la magistrature, le tribunal a pris cette décision à la suite des propos affirmant que l'armée irakienne et la police fédérale dans la province de Kirkouk étaient des forces d'occupation. Et la première ministre britannique Theresa May a demandé à ses homologues européens des projets ambitieux pour la suite des négociations du Brexit, dont l'Union européenne s'apprête une nouvelle fois à pointer les progrès insuffisants lors d'un sommet ouvert à Bruxelles. Les 27 ont prévu de faire un geste vendredi, mais devraient rester inflexibles sur la nécessité de boucler les modalités du divorce avant toute tractation commerciale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
Les chefs d'État du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont signé un accord de partenariat stratégique, notamment pour l'exploitation de l'espace maritime entre les deux pays. Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo ont convenu de l'élaboration de dispositions pratiques pour l'élaboration et la gestion en commun des ressources pétrolières et gazières transfrontalières. Le litige maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana a été tranché par le Tribunal international du droit de la mer en septembre dernier. C'est en décembre que débutera l'exploitation du champ de gazier de Zohr, découvert au large des côtes égyptiennes il y a 2 ans. Avec ce champ estimé à 850 milliards de mètres cubes, l'Égypte espère redevenir autosuffisante en gaz. L'initiative Afro-Champion a annoncé la création du club Afro-Champion, une nouvelle plateforme d'échange mobilisant les multinationales africaines pour accélérer l'intégration économique. L'objectif est de faire une série de recommandations à l'Union africaine pour la mise en place de la zone de libre-échange continentale. C'est le début de la saison touristique en Gambie. Les touristes viennent principalement des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d'Allemagne ou de Scandinavie. Avec l'agriculture, ce sont les deux moteurs de la croissance de ce petit pays de quelques 2 millions d'habitants.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Le nouveau sélectionneur de l'Algérie prend ses fonctions.
Rabah Madjer, le nouveau sélectionneur des Fennecs, estime que les mauvais résultats de l'équipe d'Algérie sont dus à un problème psychologique. Madjer, qui a pris ses fonctions aujourd'hui, veut redonner confiance aux joueurs après leur élimination du Mondial 2018. Nommé hier à la place de l'Espagnol Lucas Alcaraz, limogé le 11 octobre dernier, Madjer, ancien attaquant vedette de l'Algérie et ancien ballon d'or africain, a pour tâche de remettre sur les rails une équipe nationale traumatisée par cette élimination. On rappelle que c'est le 5e entraîneur en 3 ans pour l'Algérie.
Le Nigeria, justement, qui avait éliminé l'Algérie. Son sélectionneur s'exprime ce soir sur VOA Africa.
Après avoir manqué les CAN 2015 et 2017, le Nigeria a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Dans une interview accordée à VOA Afrique, Gernot Rohr revient sur ce beau parcours en éliminatoire et sur les ambitions du Nigeria pour le Mondial 2018. On écoute le sélectionneur des Super Eagles, Gernot Rohr.
L'objectif, c'est un bon comportement de l'équipe. C'est une attitude exemplaire de tous les joueurs. Pratiquer notre football, rester dans la compétition après les matchs de poule. Forcément, on aimerait sortir. Ça va être difficile parce qu'on sera probablement comme les autres pays africains dans le pot numéro 4. C'est-à-dire qu'il y aura des très grosses équipes à battre. Mais on est ambitieux, on a une équipe jeune. On va essayer de bien se préparer. Et au-delà du résultat de la Coupe du Monde, c'est faire progresser le football nigérian à travers un jeu plaisant et un jeu agréable.
Voilà, c'était Gernot Rohr, le sélectionneur du Nigeria. Une interview à retrouver sur voaafrique.com.
La Ligue Europa ce jeudi.
Le Milan AC qui vient de perdre 2 matchs coup sur coup en Serie A reçoit l'AEK Athènes. Dans l'autre match de ce groupe D, l'Austria Vienne doit vaincre Rijeka pour se relancer. Arsenal, de son côté, se rend chez l'Étoile Rouge de Belgrade, solide leader de son championnat. Le Baté Borisov et Cologne tenteront de rester dans la course pour un deuxième billet.
La NBA, championnat nord-américain de basketball.
San Antonio a battu Minnesota 107 à 99. Belle victoire d'Atlanta contre Dallas 117 à 111. Sacramento battu par Houston 105 à 100. Phoenix largement battu par Portland 76 à 124. Et puis la Nouvelle-Orléans battu par Memphis 91 à 103. Indiana qui domine Brooklyn 140 à 131. Enfin Washington qui domine Philadelphie 120 à 115.
Grave blessure hier aussi pour Jeremy Lin avec Brooklyn.
Et oui, la saison 2017-2018 de Jeremy Lin n'aura duré qu'un seul match. Le meneur de Brooklyn s'est grièvement blessé au genou droit. Il ne pourra pas rejouer avant la saison prochaine. Lin avait marqué 18 points en 25 minutes face à Indiana avant de se blesser sur une mauvaise réception. On lui souhaite évidemment un bon rétablissement.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. Le gouvernement a entamé des consultations dans la zone anglophone de Bamenda en proie à une crise socio-politique. Le Premier ministre Philemon Yang a rencontré divers acteurs locaux pour tenter d'harmoniser la solution vers une sortie de crise au Cameroun. Pour un point de vue sur cette démarche de Yaoundé, Eric Manirakidza a joint le porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie, Il.
C'est une démarche tout à fait inappropriée, inopportune. On va regretter qu'il y ait eu cette démarche qui vient forcément à contre-pied des attentes d'une bonne partie de la population, y compris du leadership anglophone. Parce que ce leadership aujourd'hui en trois catégories. La première est les élites du décret. La deuxième, c'est les élites qui se sont constituées au sud des événements qui ont commencé depuis octobre, au rang desquels on trouvera Maître Arbor, le docteur Fontaine et autres, qui sont les leaders qui ont une légitimité acquise sur le terrain. Et en troisième catégorie, c'est la diversité ethnique, ceux qui ont constitué un gouvernement alternatif, un gouvernement clandestin et qui est basé à partir des États-Unis d'Amérique. Voilà les deux dernières catégories qui sont des personnes susceptibles aujourd'hui de crédibiliser un débat, crédibiliser un dialogue et un dialogue sur la question de l'anglophone. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard pour dialoguer? Non, il n'est pas trop tard. Sauf qu'il faudrait que ceux qui ont les rênes du pouvoir à Yaoundé, qui lui appelle et ses hommes, comprennent une fois pour toutes la réalité, les contours et le caractère entre la partie anglophone et la partie francophone. Tant que Yaoundé n'aura pas compris ça, ils vont chercher à résoudre des problèmes qui ne sont pas soulevés par cette population-là. Et malheureusement, si la crise va s'arriver, les populations de Bamenda et de Boya se braquent elles aussi et deviennent de plus en plus séparatistes et non fédéralistes.
Mais le bras de fer ne profite à personne.
Il est évident que le bras de fer ne profite à personne, bien entendu. Mais la question ne doit pas être posée sur l'anglophone. Ils ont posé dès le départ un problème réel. Mais simplement, c'est à Yaoundé de donner de là, de pouvoir créer des conditions pour qu'on sorte de cette spirale de violence à la réalité. Ceux qui sont allés dans les rues avec les branches, les feuillages, ne sont pas venus avec des armes. Quand on veut les tirer avec des armes, c'est une réponse militaire à une sollicitation citoyenne paisible et pacifique. Donc, c'est à Yaoundé de confier sa position, mais pas une position de victoire, comme celle qui a été menée par M. Yanfei aussi.
Finalement, comment sortir de la crise?
Nous attendons qu'on propose un cadre de dialogue. D'abord, une discussion directe avec les anglophones pour évacuer d'abord le problème du vivre ensemble avec les anglophones. Et ensuite, maintenant, une discussion globale. Dans le cadre de ce que nous en appelons tous une conférence nationale. Qu'elle soit souveraine ou non souveraine, mais il faut quand même qu'il y ait ce dialogue qui va intégrer les propositions concrètes des anglophones dans un vivre ensemble qui est continuellement maintenant encadré, qui est continuellement encadré dans le cadre d'une nouvelle constitution qu'on va négocier ensemble. Donc, on doit accepter cela comme étant un élément fondamental. Sinon, on risque de se retrouver dans une logique de guerre civile au Cameroun.
C'était Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme de la société civile pour la démocratie au Cameroun.
Ce soir, dans votre programme interactif « À votre avis », nous échangeons sur la CPI et la Côte d'Ivoire. La procureure Fatou Bensouda promet indépendance et impartialité pour traduire en justice les principaux responsables des violences post-électorales en Côte d'Ivoire, quel que soit leur statut ou appartenance politique. Que pensez-vous de ce nouveau développement et de la visite de Bensouda à Abidjan? Laissez-nous vos numéros et commentaires ou appelez au 001-202-200. 5, 26 et 33. Rendez-vous à 18h temps universel sur VOA Afrique et sur voafrique.com avec Eric Manirakidza.
En visite à Abidjan, Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, affirme que son bureau s'emploiera à faire traduire en justice les principaux responsables des violences post-électorales qui avaient fait près de 3000 morts. 6 ans après, aucun responsable du camp Ouattara n'a été inquiété. Pour une réaction, Idriss Fall a joint le professeur Christophe Kouamé, président de l'association Civis Côte d'Ivoire à Abidjan.
Fatou Ben Souda représente la CPI. Dès qu'elle a annoncé sa visite, beaucoup d'organisations de droits de l'homme étaient, je dirais, heureuses. On s'était tous dit qu'elle viendrait pour quand même annoncer des nouvelles de justice pénale. Fatou Ben Souda, elle a dit que Mme Gbagbo pouvait être jugée ou devrait même être jugée encore par la CPI. Vous savez très bien que depuis janvier à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sous le coup de la grève des fonctionnaires. Il y a les mutineries à répétition, il y a même les problèmes d'insécurité avec ce qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi. Même la rentrée scolaire, il y a eu encore des échauffourées entre le ministère et la FECI. Dans un pays comme ça qui est en train de perdre sa paix relative, je pense que la CPI aurait pu analyser la situation sociopolitique et ne pas venir mettre du feu, de l'essence, je dirais, sur la braise déjà que la Côte d'Ivoire n'avait pas déclaré que spécialement Mme Gbagbo, qui a déjà été jugé par un pays souverain qui est la Côte d'Ivoire, qu'elle vienne faire cet effet d'annonce-là. Ça n'a eu qu'un effet contraire sur les populations.
D'autant que jusque-là, il n'y a aucun partisan du camp de Ouattara qui a été poursuivi par la CPI, 6 ans après les faits.
Effectivement, tous les 2 rapports que nous avons eus, le rapport de la CDVR qui est sorti l'année passée et le rapport de la Commission nationale d'enquête qui a été instruite par Mme Bajo sous la houlette du président Ouattara, les 2 enquêtes et tous les rapports en général de toutes les ONG internationales sur la Côte d'Ivoire montrent que les 2 parties en conflit ont posé des actes d'injustice, d'exaction et de crimes contre l'humanité. Nous sommes surpris qu'après 6 ans, c'est un seul camp qui est jugé. Et encore que la Côte d'Ivoire, en tant que pays, a mis en place un système judiciaire assez quand même fiable pour les moyens qu'on a eus juste après la crise et a jugé Mme Gbagbo, nous ne comprenons pas que, 1, la CPI vienne spécifiquement réclamer Mme Gbagbo, et 2, que ça se fasse dans une situation où la paix relative que nous avions eue quand même de 2011 à aujourd'hui est mise à rude épreuve avec les discussions, avec le problème des élections de 2020 qui s'est invité dans le débat public. Nous trouvons que c'est gauche, qu'en voulant faire la justice, on touche encore à la vie publique de la Côte d'Ivoire qui est actuellement, je dirais, en turbulence une.
C'était le professeur Christophe Kouamé, président de l'association Civis Côte d'Ivoire à Abidjan.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une association de handicapés moteurs travaillant dans le domaine du transport au Burundi rencontre des difficultés pour effectuer son business transfrontalier, surtout depuis la décision des autorités de la brasserie et limonaderie de fermer le commerce des boissons avec la RDC voisine. Notre correspondant Christophe Nkurunziza les a rencontrés à Bujumbura.
Nous vivons aujourd'hui une vie difficile comparée à celle que nous menions quand l'on faisait le commerce de boissons vers la RDC. Le changement se remarque dans la façon de vivre, de manger. Il y a ceux qui mangeaient 2 fois par jour, aujourd'hui qui ne mangent qu'une seule fois. Il est vraiment difficile de faire vivre la famille. Je pouvais avoir comme 20 000 francs burundais d'intérêt journalier. Je pouvais faire une économie de 5, voire 10 000 francs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Depuis l'arrêt de notre commerce avec la RDC, celle qui peut être mon témoin, c'est Mama Kanda, le bailleur de ma maison. Aujourd'hui, j'ai toujours un retard d'un mois de non-paiement du loyer. Avant, je payais tout avant que le mois ne se termine. J'avais une avance d'au moins 1 mois. Aujourd'hui, je fais le métier de soudure, mais je ne gagne seulement que l'argent pour la nourriture et les cahiers pour les enfants. Quand j'allais en RDC, c'était très facile. «
Nous avons 22 membres dans notre association. Nous avons des femmes, des hommes et des jeunes. Nous pouvons franchement affirmer que nos membres sont devenus pauvres depuis que la Braroudi a fermé le commerce des boissons vers la RDC. Tous les handicapés n'ont plus de travail. Il est vrai que de nombreux handicapés ont appris un métier. Ils n'ont pas de capitaux suffisants pour démarrer un projet de leur choix. C'est vraiment difficile pour les handicapés aujourd'hui.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Et veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité du son du reportage précédent dû à un problème technique. Ouverture hier au Caire en Égypte d'une conférence de 3 jours sur l'avenir des villes africaines à l'ère des nouvelles technologies. Voici un reportage d'Edouard Yéranian interprété par Abdourahman Dia.
Des participants motivés par l'innovation, la création et le partage d'idées novatrices se sont donné rendez-vous à l'Université francophone du Caire. Leur objectif, faire profiter les avancées technologiques à un continent d'1,2 milliard d'habitants. Le patron d'AfriLab Nigeria, organisateur de l'événement, estime que la technologie est le moyen le plus efficace pour briser les frontières artificielles. Michael Oluwagbemi.
We need to start using technology.
Il est temps qu'on utilise la technologie pour faire tomber les murs qui nous séparent. La technologie offre une solution unique et ne connaît pas les frontières.
Le rôle des universités dans cet univers virtuel est l'un des sujets brûlants de la Réunion. Ces institutions doivent faire mieux dans l'usage du savoir. Idriss Bello, de la Sierra Leone, estime que les universités ont du mal à capitaliser sur les atouts intellectuels dont ils disposent.
Nous n'arrivons pas à créer le lien entre ce que nous apprenons dans les écoles et les problèmes que nous avons avec l'écosystème. Nous avons des milliers de projets qui dorment dans les bibliothèques, dans les livres qui ne sont pas commercialisés ou ne sont pas utilisés dans la résolution de nos problèmes dans la vie réelle.
Malgré les efforts pour améliorer la qualité de près de 250 universités, aucun pays africain n'était sur la liste de l'indice mondial de l'innovation l'an dernier. La participation des femmes dans le développement économique et le futur technologique de l'Afrique est un autre sujet de préoccupation. Florence Toffa est une femme entrepreneur. Elle déplore la stigmatisation dont elles sont victimes.
Pour la plupart des femmes que j'ai rencontrées, le principal défi a toujours été le choix entre la carrière et la vie de famille à la fin des études.
AfriLab veut installer une dizaine de hubs technologiques à travers le continent pour connecter les Africains aux idées novatrices. Et comme l'a dit son fondateur, pour encourager les jeunes à être des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emplois.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin. À la présentation, Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. À présent, l'actualité du jour avec Henri Francisque. Très bonne soirée à tous.
Le Monde aujourd'hui.
diffusée partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.